Donc notre prochain intervenant est Jean-Marie Chevalier, qui est maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Est Créteil. Après une thèse consacrée à la philosophie de l'esprit de Charles Sanders Peirce, il a publié L'empreinte du monde chez Ithaque en 2013, Qu'est-ce que raisonner chez Vrin en 2015, ainsi que de nombreux articles sur Peirce, sur l'histoire de la logique, le pragmatisme et l'épistémologie. Jean-Marie Chevalier a aussi co-dirigé deux volumes collectifs avec Benoît Gauthier, donc Connaître, questions d'épistémologie contemporaine aux éditions Ithaque, et La connaissance et ses raisons aux éditions du Collège de France. Son prochain ouvrage, à paraître sous peu, si j'ai bien compris, s'intitule Peirce ou l'invention de l'épistémologie. Et l'exposé de Jean-Marie Chevalier aujourd'hui s'intitule L'analyse et la tâche interprétative de la philosophie.
D'accord, donc c'est bien moi qui ai été invité. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un malentendu, parce que j'ai un homonyme économiste qui est spécialiste du pétrole et n'étant moi-même pas spécialiste de l'essence. Voilà, donc il n'y a pas de malentendu. Donc je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais en tout cas je remercie beaucoup Madame Tiercelin et la chaire et les organisateurs de m'avoir invité à m'interroger sur ces questions difficiles. Et donc j'essaierai de présenter quelque chose de relativement simple. Je distingue deux grandes tendances de la métaphysique, l'une qui est de pôles, l'un qui tend vers un essentialisme scientifique, l'autre qui tend vers un essentialisme a priori ou conceptuel. Et il me semble que la métaphysique a toujours été tiraillée entre ces deux pôles, qu'elle est en quête donc d'une sorte d'épistémologie hybride qui lui permettrait de faire l'aller-retour, le lien entre ces deux pôles, et que cette épistémologie hybride est un petit peu l'impensé de la métaphysique, et il me semble qu'il est très difficile d'en proposer une qui soit satisfaisante. D'où une proposition que je fais à la fin, à laquelle je n'arriverai peut-être pas, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est une proposition qui est en cours d'élaboration, qui n'est pas forcément très convaincante au vu des difficultés. Donc je vais déjà essayer de présenter les difficultés. Voilà, donc vous avez le plan de mon exposé. Et il me semble qu'on peut partir par essayer de circonscrire le champ de la métaphysique, qui en gros est susceptible, en très gros peut-être, de quatre définitions, comme une discipline philosophique, la discipline philosophique qui a pour objet le possible, qui a pour objet le nécessaire, qui a pour objet les essences, et qui a une méthode a priori, dernière caractérisation, qui est épistémologique, de manière peut-être assez intéressante. Alors la métaphysique entendue comme étude du possible est une définition qui est celle par exemple de David Lewis qui remonte à de nombreux auteurs scolastiques dont Dean Scott qui me semble est aussi adoptée par Claudine Tiercelin mais peut-être pas uniquement. La définition de la métaphysique comme science du nécessaire serait celle de Kripke et Putnam à partir donc d'une approche modale. La définition sous forme d'essentialisme est celle de Jonathan Low, qui est censée être reprise de ou s'inspire de la tradition aristotélicienne, avec un sens de l'essence qui peut être emprunté à Locke. Law reprend souvent cette définition de l'essence comme « the very being of anything whereby it is what it is », donc ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Et puis, une partie de la philosophie dont la méthode est a priori, avec des partisans de l'analyse conceptuelle comme Frank Jackson. Kit Fine aussi donne cette caractérisation, non pas définition, mais caractérisation, de la métaphysique. Alors, on peut remarquer que le nécessaire n'implique pas l'a priori, contrairement peut-être à ce que Kant a pu affirmer. On peut considérer qu'on peut avoir des connaissances a posteriori de propositions qui sont nécessairement vraies, qu'en revanche, l'a priori implique le nécessaire. Alors, si l'a priori implique le nécessaire, on peut déjà regrouper nos points 2 et 4. Quant au possible et au nécessaire, en tant que modalité, ils sont équivalents. Alors, équivalents dans la logique modale contemporaine, du moins. De sorte qu'on pourrait se retrouver, de manière un petit peu rapide, je vous le concède, avec une caractérisation donc, de la métaphysique, soit comme connaissance des essences, soit comme connaissance a priori. Et la question du défi de l'intégration consisterait donc à concilier ces deux versants, comment faire tenir ensemble donc l'exigence épistémologique d'a prioricité et l'exigence métaphysique d'essentialisme. Est-il possible de faire tenir les deux ensemble? N'est-ce pas contradictoire? La métaphysique n'est-elle pas condamnée à être écartelée entre un pôle plutôt empirique, qui est monopolisé par la science, et un pôle d'analyse du langage qui porterait uniquement sur les significations? La métaphysique n'est-elle donc qu'un marécage entre le scientifique et le linguistique? On espère que non. Suspense. Eh bien, ça c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc entre l'analyse en fauteuil d'objets abstraits et l'ontologie scientifiquement informée du réel, y a-t-il autre chose qu'un marécage putride même? Alors, je vais commencer par revenir un petit peu sur ces deux types de connaissances métaphysiques. On peut espérer de la métaphysique qu'elle nous apporte des savoirs sur l'être, la substance, le temps, l'espace, les universaux et les particuliers, les modalités, les propriétés, les catégories, les classes, les genres, etc. On peut espérer avoir une connaissance de leur nature, de leur essence, au sens d'une nature intrinsèque, d'une nature profonde, essentielle, donc d'une essence, éventuellement au moyen de la connaissance de leur structure. On peut aussi s'interroger sur l'existence de ces entités, c'est-à-dire la légitimité qu'il y a à leur supposer une nature. Ça peut être le cas des temps comme Dieu, de propriétés comme la liberté, de catégories comme les genres, les universaux. Et donc, il me semble que toutes ces connaissances peuvent être réparties en deux domaines d'objets, un domaine d'objets empiriques, typiquement les nombreuses discussions qui ont lieu dans la métaphysique contemporaine sur l'essence de l'eau, sur les tigres. Donc l'eau est-elle nécessairement H2O, c'est-à-dire des questions qui portent sur les classes naturelles en général. On pourrait peut-être considérer que la métaphysique du temps, des personnes, des propriétés appartiennent aussi à ce domaine que j'appelle commodément empirique, non pas au sens où ce seraient des objets empiriques, des concepts empiriques. On peut par exemple considérer que le concept de personne est spéculatif, qu'il est transcendantal, qu'il est idéal. On peut considérer qu'on ne rencontre pas des personnes, mais des individus humains. Mais au moins, on peut considérer aussi que ces concepts s'appliquent, caractérisent de manière individuée des entités qui peuvent être des objets de l'expérience. Donc le concept de personne peut s'appliquer à un individu empirique. Les propriétés peuvent être rencontrées sous forme de telle propriété, telle couleur, etc. Et le deuxième domaine d'objets, donc sur un domaine plus abstrait, plus général, non empirique, qui pourrait être qualifié comme des objets de réflexion, voire des objets de seconde intention, au sens où ce seraient des concepts qui s'appliquent à des concepts. Par exemple, la substance est-elle un faisceau de propriétés? On va s'interroger sur le concept de substance. Les universaux sont-ils réels? Les modalités sont-elles antérieures? Sont-elles logiquement antérieures ou métaphysiquement antérieures aux essences, etc. Qui seraient donc des questions de ce type plus abstrait. Donc on aurait deux modalités de la connaissance métaphysique, qui seraient grosso modo donc l'essentialisme scientifique et l'analyse conceptuelle respectivement. Alors je reconnais que la distinction entre ces deux domaines est relativement imprécise, mal définie telle que je viens de le faire, mais assez intuitive, facilement saisissable. Il me semble qu'en gros, sur le plan des méthodes, c'est la distinction qu'on peut faire entre métaphysique armchair et métaphysique de la science. Je soulignerai tout de même que ça ne recoupe pas, me semble-t-il, la distinction entre concret et abstrait, ni la distinction entre particulier et général. L'eau, par exemple, n'est pas particulière, et un trope n'est pas quelque chose de général. Donc ce seraient en tout cas deux grands domaines qui correspondent à deux polarités de la physique, de la métaphysique, et à deux méthodes, plutôt qu'à des connaissances franchement séparées et impénétrables. Alors je vais les explorer successivement. Premièrement et rapidement, l'essentialisme scientifique, le risque donc de cette première polarité est qu'elle se dissolve dans les sciences empiriques. Si la métaphysique peut produire des connaissances distinctes des connaissances scientifiques, c'est parce que elle porte sur l'essence des choses. Et donc, cet essentialisme empirique aurait pour objet également des objets empiriques, mais l'extension des classes de ces objets. Notamment, l'essentialisme de type Putnam-Kripke porte, l'essentialisme modal, donc, relève de cette approche en ce qu'il porte sur les classes naturelles et en ce qu'il considère que les essences sont découvertes, du moins pour la plupart, a posteriori, de manière empirique. C'est une connaissance qui peut aussi s'appliquer aux particuliers, par exemple, à l'essence individuelle des objets, par exemple, la socratité de Socrate. Dans le cas de Kripke et de Putnam, cette métaphysique a posteriori suppose la priorité des modalités sur l'essence, car alors souvent il me semble que c'est parce qu'elle fait fond sur la nécessité des lois de la nature, qui serait un mode d'accès à la connaissance métaphysique. Et justement, toute la difficulté pour le métaphysicien est là, il s'agit de tenir un discours respectueux de celui de la science, scientifiquement informé, mais qui s'en distingue. Et il me semble que beaucoup de philosophes et de voire certains métaphysiciens eux-mêmes ont exprimé leur perplexité. Je vous ai mis cette phrase de Simon Blackburn. Il a fallu Lavoisier plutôt qu'Aristote ou Frege pour montrer comment, ayant fixé les faits physiques, Dieu n'avait plus rien à faire pour rendre le monde aqueux. Donc effectivement, c'est plus le chimiste que le métaphysicien qui va nous montrer la nature des objets qui tombent sous une certaine classe, et puis même la nécessité de cette essence. Pour les notions abstraites, on a le même genre de perplexité de la part, par exemple, de Thomas Tacco, qui dit « On voit difficilement comment l'essentialisme a posteriori pourrait rendre compte des essences des objets abstraits. » Effectivement. Donc le risque de l'essentialisme empirique, c'est au nom d'un respect pour la science, de lui faire une totale allégeance, et il me semble que c'est des choses qui ont été dites notamment par Claudine Tiercelin quand elle met en garde contre cette ombre portée du scientisme sur la métaphysique scientifique. Et ce risque scientiste qui revient finalement à opter pour une métaphysique normative dont les choix sont en fait imposés par la science elle-même. Et je pense que c'est une tendance qu'on peut déceler dans des options métaphysiques contemporaines comme le privilège accordé à l'événement par rapport à la substance, parce que l'événement serait plus compatible avec la physique quantique, ou privilégier les propriétés dispositionnelles aux propriétés catégoriques pour les mêmes raisons, parce que à cause des travaux de Pierre-Gilles de Gennes ou de beaucoup d'autres gens de physique quantique, etc. Il ne s'agit certes pas de dire que la métaphysique des dispositions commet nécessairement un péché de scientisme, mais quand on privilégie la compréhension de l'essence des choses en termes d'analyse de la matière, eh bien, quand on privilégie l'analyse des pouvoirs d'action en termes de capacités microstructurelles quand on décide de se tourner vers la microphysique, comme c'est le cas de Putnam dans The Meaning of Meaning, par exemple, où il décide d'adopter la microstructure comme critère de l'identité de la substance, eh bien, il me semble qu'on arrive à un stade où le métaphysicien, pour paraphraser Kant, doit supprimer la croyance essentialiste pour laisser la place au savoir scientifique. C'est un problème. Alors, on peut se tourner vers l'autre pôle, celui de l'analyse conceptuelle, et il me semble qu'on a désormais non plus une introuvable métaphysique normative, mais une introuvable métaphysique descriptive. Pourquoi ? Eh bien, on procède par une analyse sémantique, conceptuelle, a priori. Alors, sans doute pas purement a priori, comme dirait Kant, puisque sinon on ne pourrait pas parler d'objet. Mais justement, toute la difficulté là, c'est de maintenir la prioricité de la connaissance des essences, tout en l'appliquant à des objets empiriques, au prix parfois de contorsions un petit peu surprenantes. Je mentionne en passant Kit Fine, qui assigne à la métaphysique un rôle d'a priorification par factorisation. Ça m'a semblé assez compliqué et assez peu convaincant, c'est peut-être ma faute. L'idée est de fournir une base a priori à des vérités a posteriori du type « l'eau est par nature H2O ». Je m'attarde un tout petit peu plus sur l'exemple de Frank Jackson, qui argue en somme que l'eau peut être un objet d'une connaissance a priori à condition d'inscrire tout un contexte de connaissances d'arrière-plan, de concepts, de catégories, dans des prémices dont la connaissance sera tirée a priori. Et c'est ce qu'il fait, Frank Jackson, avec son principe de passage a priori, dont il dit qu'il est validé par David Chalmers et David Lewis. Soit. Donc l'idée, c'est que l'eau est a priori l'entité qui joue le rôle de l'eau, car il est vrai, et a priori, qu'il y a une seule entité qui joue le rôle de l'eau. Et donc, le passage de X et H2O à X et de l'eau, certes, est a posteriori, mais si on ajoute que le monde réel, donc le fait que H2O joue le rôle de l'eau, fixe la référence du terme eau, on transforme ce passage de X et H2O à X et de l'eau en un passage a priori. X et H2O, H2O joue le rôle de l'eau, implique a priori que X est de l'eau. Donc, selon Jackson, l'analyse conceptuelle doit avant tout rendre plausible la possibilité de passer a priori d'une explication physique assez riche du monde à sa description, notamment psychologique pour nous. Il me semble que c'est une conception relativement insatisfaisante de la déduction a priori, puisque c'est finalement de ça qu'il s'agit. Simon Blackburn, qui a critiqué cette conception, cet artifice, fait l'analogie suivante, que j'adapte à mon tour, en disant c'est comme si je suis ici, signifié tout d'un coup je suis à Paris, parce que ici c'est Paris, en prenant en compte le contexte, et donc comme si je pouvais déduire a priori de je suis ici que je suis à Paris. Donc effectivement, à ce tarif-là, il y a beaucoup de choses qui sont a priori. Alors, pour quelques petits rappels, avant même Jackson, on pourrait parler de Kant et de sa réduction de l'ontologie à une analytique de l'entendement, de Wittgenstein à sa manière de traiter les énoncés métaphysiques comme des réifications de jeux de langage, en disant par exemple que le discours sur l'être n'a pas de jeu de langage, donc on ne parle pas de l'être en général, vous savez tout ça. De sorte que ce qui peut être considéré comme de l'ontologie formelle, de type méréologique, n'est en réalité qu'une question de grammaire. Pourquoi je dis de type méréologique ? C'est la question de la grammaire des couleurs. Comment se fait-il qu'une couleur suppose une chose étendue qui est cette couleur ? Eh bien, est-ce une question d'ontologie formelle ? Wittgenstein répond, c'est une question de grammaire philosophique. Donc ça, c'est une version un petit peu éliminationniste de la Metaphysica non grata. Dans une version un petit peu plus charitable, on peut considérer que le concept ne remplace pas l'essence, mais il donne accès. C'est ce qu'affirme par exemple Peter Hacker quand il dit « clarifier un concept revient à clarifier la nature de ce qui tombe sous lui ». À cet égard, il faudrait peut-être distinguer analyse conceptuelle, analyse sémantique et analyse métaphysique avec Peter Strawson, qui dit que l'analyse métaphysique, de la métaphysique descriptive donc, veut mettre à nu les traits les plus généraux de toute structure conceptuelle. Elle a besoin de présupposer beaucoup moins qu'une investigation conceptuelle plus limitée et plus partielle. Donc on peut considérer ce passage par l'analyse des concepts comme une fatalité. Une ontologie se présente au moins en partie comme un inventaire des catégories et des notions les plus centrales de notre schéma conceptuel d'appréhension de la réalité physique, mentale ou sociale, dit Frédéric Neff. Mais on peut aussi considérer, au contraire, que succomber à cette méthode répète le geste classique de l'idéalisme, qui réduit finalement la réalité à ses représentations, comme Searle l'a reproché à Quine, comme Davidson l'a reproché à Goodman et à sa pluralité des schèmes conceptuels. Le risque donc de faire dépendre la connaissance des essences sur des jeux de langage, sur des concepts, des formes de vie, c'est non seulement l'adoption d'une ontologie descriptive et acritique qui serait, me semble-t-il, l'ontologie du sens commun, mais une forme d'antiréalisme et même de pluralisme avec la menace relativiste qui l'accompagne. Alors, contre cette menace, on pourrait répondre par la thèse davidsonienne de l'absence de schème conceptuel. Il me semble qu'elle est de peu de poids, tout simplement parce que, me semble-t-il, la démonstration de Davidson est de peu de poids. Et là, j'enfonce un dard dans le dos de Benoît Gauthier, qui, me semble, l'utilise dans son article « Finir le travail épistémologique à coup de métaphysique ». Voilà, il me semble que Benoît, dans cet article, considère que, justement, s'il n'y a pas risque de ne parler que du concept quand on analyse un concept, mais qu'effectivement on vise la chose, c'est parce qu'il n'y a pas de schéma conceptuel. Or, la démonstration de Davidson est en grosso modo la suivante, soit l'autre schéma, s'il y a une pluralité de schémas conceptuels, soit l'autre schéma est intraduisible et on ne peut savoir qu'il existe, soit il est traduisible dans notre propre schéma conceptuel, auquel cas il est semblable au nôtre. Donc il n'y a pas de schéma conceptuel différent, donc il n'y en a pas du tout. Donc je n'ai pas prévu d'expliciter ma critique de l'argument davidsonien, qui n'est pas particulièrement accepté, me semble-t-il, et personnellement, je trouve assez peu acceptable. De sorte que s'il y a des schémas conceptuels, effectivement, on risque d'être pris dedans en faisant de l'analyse conceptuelle. Alors, je remarque aussi qu'il me semble que, d'une certaine manière, ces deux pôles, l'essentialisme empirique, scientifique, et l'analyse conceptuelle, la critique ou, l'analyse des schèmes conceptuels, ces deux pôles, me semble-t-il, se rejoignent d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, on soutient une thèse de spécialisation du langage. Parce que, bien sûr, l'analyse conceptuelle repose, la métaphysique descriptive repose sur un examen du langage ordinaire, mais l'essentialisme scientifique repose lui aussi sur un matériau linguistique, à savoir des énoncés d'observation, des propositions théoriques, qui sont ceux des différentes sciences empiriques. Donc, il me semble qu'en dernière analyse, l'échec de la métaphysique a trouvé sa place entre une redescription de nos concepts communs et la prescription d'adopter ceux de la science, repose sur l'acceptation implicite de ce que John Hill appelle la théorie picturale, c'est-à-dire considérer, en gros, que le découpage linguistique de nos concepts correspond au découpage du monde, que le langage offre une image acceptable de la réalité. Le schéma est donc censé représenter une espèce de bandeau avec les deux pôles à chaque extrémité, l'analyse conceptuelle, le réalisme scientifique. Vous reconnaissez le marécage putride, l'introuvable métaphysique. Et alors, si les deux extrémités se rejoignent, eh bien, on obtient quelque chose comme un ruban en forme d'anneau. Et cet anneau va circuler de haut en bas, le long d'une tige, on peut imaginer, en fonction d'une autre bipolarité qui est fonction donc de la généralité, puisqu'on va s'intéresser à des essences plus ou moins générales. Ah, voilà. Voilà mon anneau qui circule sur un cône de généralité allant en haut vers la particularité, donc l'échéité, et puis en bas vers peut-être la substance, peut-être l'être, ou la quiddité au moins, avec différents degrés de généralité auxquels je vais maintenant m'intéresser. Ce qui prouve que la métaphysique peut être représentée par un instrument de plomberie, me semble, qui sert à mesurer le diamètre des joints. Alors, le problème de la généralité, elle aussi s'articule en deux pôles. Il est courant de considérer que la généralité est une caractéristique de la métaphysique. C'est quelque chose qui est tenu pour acquis par Kit Fine, par exemple, qui considère que la métaphysique est pénultième en généralité avant la logique. S'il n'y a de science que du général, la métaphysique a certes en vue l'essence générale d'une chose, mais aussi, en tant qu'elle est membre d'un ensemble, mais aussi, c'est-à-dire sa quiddité, l'inité du feu, la pétréité de la pierre, mais aussi la métaphysique a également en vue l'échéité, c'est-à-dire l'essence individuelle, ce qui fait l'individualité de cette instance particulière de feu, de cette pierre. Et donc la quiddité et l'échéité font voyager de l'universel au singulier. Et entre les deux s'étendent tous les degrés de plus ou moins grande généralité et particularité, de sorte que cette question de la généralité est toujours définie de manière assez imprécise. À quel niveau de généralité se situe le discours métaphysique ? Parle-t-elle des choses empiriques, de la chose en général, de l'objet quelconque, de la substance, du quid, de l'être ? Quel type de discours donc la métaphysique est-elle susceptible de tenir? Il me semble que j'ai fait un petit tableau articulant les deux polarités. Donc, si on les combine, il me semble qu'on est conduit d'une phénoménologie descriptive pour l'essentialisme scientifique qui s'intéresse aux objets particuliers, à l'ontologie formelle qui aurait pour équivalent chez Peirce la phénoménologie catégoriale, donc différents types de phénoménologie plus ou moins générales, et dont les méthodes seraient donc la déduction pour l'analyse conceptuelle, la déduction a priori, et puis l'abstraction pour l'essentialisme scientifique. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'abstraction qui effectivement semble une de mauvais augure si on espère tirer par abstraction des essences métaphysiques de l'expérience des objets qui en sont les porteurs, des entités qui en sont les porteurs. On est sans doute mal parti. L'objet quelconque n'est pas le point commun entre tous les objets. De la même façon que le chat n'est pas ce qu'il y a de commun entre tous les chats. Néanmoins, on pourrait dire qu'il y a quand même une différence. L'abstraction peut fonctionner dans une certaine mesure en science, mais pas du tout en métaphysique. Pour citer Benoît Gauthier de Rechef, les personnes ne sont pas des espèces naturelles comme le sont les chats et l'or, ce qui serait une des raisons pour lesquelles, effectivement, on ne peut pas connaître les espèces naturelles par abstraction. Même si je concède que pour les chats et pour l'or, c'est aussi assez improbable. La méthode déductive, il y a de fortes chances de qu'elle se réduise à une redescription de nos schèmes, conceptuels. À cela s'ajoute un autre risque qui est que si l'on creuse bien, il n'est pas impossible que la déduction soit reconduite in fine à une forme d'abstraction. Peut-être pas la déduction transcendantale, mais Kant le mentionne lui-même à propos de la déduction métaphysique et non transcendantale, en faisant une catégorie de l'abstraction. Si nous abstrayons tout contenu d'un jugement, considérons seulement la pure forme de l'entendement, nous trouvons que la fonction de la pensée dans le jugement peut être reconduite à quatre chefs, etc. Et il en déduit quatre catégories métaphysiques. Il me semble que tout ce petit parcours nous reconduit au défi de l'intégration, tout simplement, c'est-à-dire qu'on est obligé de rejeter ces deux routes épistémologiques, que sont l'abstraction et la déduction. Reste-t-il une option permettant donc d'expliciter la méthode pour produire et garantir, justifier la connaissance métaphysique? Eh bien, on aimerait quelque chose comme une épistémologie hybride qui, d'une certaine manière, combine les deux. Il me semble que c'est assez improbable, ce que je vais essayer de montrer. Alors, certes, il n'est pas question uniquement de devoir choisir entre deux options seulement, qui seraient l'abstraction inductive de type Humeienne, Millienne, et la déduction kantienne, Straussonienne. Et notamment, la méthode abstractive a été corrigée par l'idée qui suivrait une ligne, si on veut, Ewell, Peirce, Popper et au-delà, donc une ligne disant que la recherche fonctionne par conjecture et réfutation, conjecture audacieuse et impitoyable réfutation. C'est un modèle qu'on pourrait rapidement appeler abductif ou de l'inférence à la meilleure explication, bien qu'il y ait des différences entre les deux sur lesquelles je ne reviens pas. C'est un modèle qui a fait ses preuves en science, et donc peut-il inspirer le travail du métaphysicien en lui permettant de joindre les deux pôles, donc extrêmes, vers lesquels il tend, l'analyse a priori, et puis la soumission aux faits scientifiques ou le respect des faits scientifiques, sans subir les désavantages des deux méthodes. On pourrait ainsi dompter les possibles conceptuels par la science et corriger les concepts scientifiques par l'analyse. La méthode métaphysique correcte consisterait donc à explorer tout le champ des possibles par l'analyse, par des variations eidétiques, si on veut reprendre une expression husserlienne, puis à sélectionner ceux des possibles qui s'appliquent au réel par des tests de nature qui seraient de nature plus scientifique. Et pour ne pas sombrer dans le scientisme, cette analyse viendrait dans un même temps procéder à l'examen critique des présupposés, des théories et concepts employés dans les sciences. Donc ça semble un programme plutôt réjouissant, mais malheureusement, il me semble que cette tâche idéale ne peut pas être réalisée pour au moins deux raisons, qui sont premièrement que les concepts métaphysiques ne sont pas empiriquement testables, donc ça c'est une platitude sur laquelle je n'insiste pas, mais je pense que c'est quand même quelque chose de fondamental qui fait obstacle à ce projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas tester le concept de personne, d'objet ou de trope au contact des individus, des choses mondaines. Il me semble qu'il n'y a pas, pour reprendre encore des choses qui ont été dites par Benoît tout à l'heure, il n'y a pas d'expérience telle que je pourrais être conduit à devoir réviser mon concept de personne ou mon concept de trope. C'est-à-dire que si on m'apprenait que ce robot est une personne, eh bien, je ne réviserais pas mon concept de personne. Je réviserais mon concept de robot, probablement, ou peut-être ma conception générale du monde, mais Je pense que le concept de personne serait intact. Donc, il y a cette difficulté-là. Et puis, une autre sur laquelle j'aimerais m'étendre davantage, qui est que toute exploration des possibles n'est pas métaphysique. Ce qui, dit de la sorte, est aussi assez évident et trivial, mais qui peut être oublié parfois par la métaphysique elle-même. Et pour le montrer, je vais partir d'un exemple allégué par Thomas Tacco en faveur d'une épistémologie hybride. C'est l'exemple donc, des éléments transuraniens. Les transuraniens, donc, ce sont des éléments chimiques dont le numéro atomique est supérieur à celui de l'uranium, qui est de 92. Par exemple, il y a le plutonium, l'einsteinium, ce sont des transuraniens. Alors, ils n'existent pas sur Terre à l'état naturel. On pense qu'ils existent dans certaines étoiles, car ce sont des éléments très instables. On les a observés sur Terre à partir de 1940 au sein de réacteurs nucléaires ou d'accélérateurs de particules. Donc ils peuvent être produits artificiellement. Ce qui, soit dit en passant, illustre ou est censé illustrer un grand principe de E.J. Lowe, selon lequel la connaissance de l'essence précède la connaissance de l'existence. C'est-à-dire qu'on savait que ces transuraniens peuvent exister avant même de les observer et avant même que leur existence soit attestée, avant même leur venue à l'être, sauf peut-être sur certaines étoiles. Donc ici, Thomas Tacco dit « l'observation n'est pas première » et donc, je le cite, il dit « il y a là place pour un élément a priori, car pour que ce processus débute, nous devons en effet avoir au moins un élément de connaissance, some knowledge, a priori, au sujet des genres d'objets qui sont métaphysiquement possibles. » Et il me semble qu'il y a là une confusion, que cette affirmation résulte d'une représentation erronée, tout simplement, de la méthode scientifique et du rôle de l'imagination dans les sciences, qui, loin d'être subsidiaire et fondamentale, en particulier pour créer de nouvelles hypothèses, sans qu'on sorte du domaine de la science, bien évidemment. Et donc, il me semble que cette méthode abductive, consistant à proposer de nouvelles hypothèses, ne nous fait pas plonger irrémédiablement, de ce fait, dans la métaphysique de la structure du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. On peut inférer que les cases vides ont une forte probabilité d'être remplies de la même façon que les cases pleines, c'est-à-dire occupées par les éléments observés en fonction d'un remplissement des couches électroniques de manière systématique, etc. Hypothèse qui ne porte pas sur les modalités, ni sur l'essence, ni ne requiert de raisonnement purement a priori au sens kantien, au sens où, où il ne s'appliquerait pas à un objet de l'expérience. Je ne vois pas très bien au nom de quoi on considérerait que cette phase de raisonnement n'est pas scientifique, mais métaphysique, surtout si on admet la testabilité comme critère de scientificité. Ça s'intègre parfaitement dedans. Donc, la combinatoire des configurations électroniques des éléments n'est pas une exploration du métaphysiquement possible. Il me semble que ça rejoint une discussion qui a eu lieu tout à l'heure, lorsque Philippe Drapeau-Vieira-Quantim a parlé des conditionnels essentialistes, en répondant à Benoît et en disant que peut-être que la partie a priori de cette enquête sur les éléments empiriques, tels que l'or, les citrons et l'eau, par exemple, que ces conditionnels essentialistes, donc ces principes généraux sur l'essence a priori, eh bien, peut-être qu'ils sont tout simplement édictés par la science et non pas par la métaphysique elle-même, ce dont on s'aperçoit avec l'exemple du tigre, dont l'individuation de l'espèce ne repose pas sur l'ADN, mais sur une structure phylogénétique. Ce qui voudrait dire donc que ces conditions a priori sont vraiment des conditions scientifiques et non pas métaphysiques. Il me semble que peut-être, je m'avance avec plus de précautions, mais que Kripke, quand il traite l'exemple de H2O, de la même façon, de peur de rabattre le possible métaphysique sur le possible épistémique, et donc sur le concevable, dans cette volonté de dire que le possible n'est pas le, voilà, ce qui peut être imaginé ou ce qui peut être conçu, eh bien peut-être le rabat-il, ce possible métaphysique, sur le possible scientifique, pour les raisons précédemment alléguées, à savoir au nom de la structure moléculaire, au nom de un micro-essentialisme ou un, voilà, une prise en compte essentiellement de la nature physique de l'élément. Hein, lorsqu'il dit XY n'est pas de l'eau parce que c'est quelque chose qui ressemble à de l'eau, mais qui n'est pas H2O, donc qui n'a pas la structure moléculaire de l'eau, donc qui n'est pas de l'eau. En résumant de manière un peu cavalière son argument. Donc la conclusion à laquelle on peut parvenir est totalement décevante, puisqu'elle consiste à dire que finalement aucun des deux pôles de la métaphysique n'est acceptable dans sa pureté, et que l'intermédiaire, le moyen terme, n'est pas non plus souhaitable. La médiocritas n'est pas du tout aurea. Alors il semble pourtant, c'est là où l'effort de pensée résiste, il semble pourtant que la tâche de la métaphysique soit bel et bien de concilier une attention fine au concept et puis un parti pris réaliste dans un double rejet du conceptualisme kanto-wittgensteinien, si on veut, et puis du scientisme. Il me semble, et je me permets donc de poser une question à un membre de cette assistance, il me semble à cet égard que l'œuvre de Claudine Tiercelin paraît exemplaire de cette tentative pour tenir ensemble les deux bouts de la chaîne, et que c'est ce que la métaphysique doit faire, notamment donc à travers un aliquiditisme fondé sur l'analyse a priori, et puis une philosophie des dispositions scientifiquement informée. Mais donc ce projet n'est-il pas intrinsèquement contradictoire, faute de la possibilité d'une épistémologie hybride ? Autrement dit, peut-on avoir Aristote et Putnam sans avoir ni Wittgenstein ni Auguste Comte ? C'est une vraie question, et je ne doute pas qu'il y aura bien des choses à me répondre. Alors, je n'ai pas démontré que toute épistémologie hybride est impossible, puisque je n'ai pas envisagé tous les types d'hybridation de l'épistémologie. Il me semble malgré tout que c'est essentiellement ce qu'on peut avoir à l'esprit. Et je pense, cette fois je m'adresse à un autre membre, il me semble que Philippe Drapeau-Veyra-Conti m'a proposé une ligne de partage, non pas entre science et métaphysique, mais à l'intérieur de la métaphysique, entre métaphysique armchair, qui devrait formuler des principes généraux de nécessité, les conditionnels essentialistes, et puis le métaphysicien de la science qui a, je cite, « seule autorité pour juger du possible et du nécessaire concernant les sortes particulières », eh bien, il me semble que finalement, ce partage revient un petit peu à ce dont j'ai parlé et souffre peut-être des mêmes limites. Alors, puisqu'il reste un petit peu de temps, je vais avancer prudemment une proposition dont vous allez voir qu'elle est extrêmement décevante et peut-être peu pertinente, voire impertinente au regard de toutes les difficultés rencontrées, qui consistera par commencer avec l'exemple de l'eau est-elle nécessairement H2O. Question à laquelle j'apporte une réponse claire et nette, qui est négative. L'eau n'est pas nécessairement H2O, ce qui va bien sûr à l'encontre de la thèse soutenue par Kripke. Alors, il va de soi donc, que sur Terre, tout ce qui a les propriétés phénoménales et physiques de l'eau joue le rôle de l'eau, c'est H2O. Mais cela pourrait-il ne pas être le cas ? Eh bien, je propose le raisonnement suivant. Donc, si un élément XYZ, différent de H2O, avait les propriétés et remplissait les fonctions de l'eau, nous serions disposés à l'appeler de l'eau. Par exemple, si nous ne connaissions pas la différence moléculaire, chimique, si nous ne l'apprenions que plus tard, on ne débaptiserait pas XY, que nous appelions de l'eau, pour considérer que finalement ce n'était pas de l'eau, me semble-t-il. Il est donc métaphysiquement possible que XY, il est donc possible que XY soit appelé de l'eau, soit considéré comme de l'eau. Ce qui ne garantit pas, bien sûr, la possibilité physique que les propriétés phénoménales et physiques de l'eau soient multiréalisables, puissent être obtenues autrement que par des molécules H2O. Mais ça, ça ne nous concerne pas vraiment. Il me semble que ici le possible échappe à l'illusion modale dénoncée par Kripke, à savoir que ce serait une possibilité épistémique et non pas métaphysique, car l'eau, là, n'est pas définie comme le pensable, mais comme le non-contradictoire. Il n'est pas contradictoire, c'est-à-dire de manière wolfienne et non kantienne. Il est non-contradictoire que XY soit tenu pour joue la fonction de l'eau et donc soit baptisé eau. Et c'est là où je dis donc que Kripke a à cœur de distinguer possibilité épistémique et possibilité métaphysique, mais peut-être en écrasant la possibilité métaphysique sur la possibilité physique. C'est-à-dire qu'il considère que XYZ ne serait pas de l'eau parce qu'il n'est physiquement pas possible qu'autre chose que H2O et le comportement de l'eau. Or, là je m'appuie sur une note de bas de page de Putnam dans Le réalisme à visage humain, Putnam envisage le cas d'un monde possible, alors là je cite Putnam, un monde possible dans lequel la composition ne détermine pas le comportement. Et dans ce monde possible, donc, H2O ne tombe pas sous forme de pluie, n'étanche pas la soif, n'éteint pas le feu, etc. Est-ce que cette substance hypothétique serait de l'eau ? Et la réponse de Putnam est Kripke répondrait apparemment oui. Ce qui veut dire que Kripke s'appuie non pas sur le rôle fonctionnel de l'eau, non pas sur le baptême accordé à l'eau, mais uniquement sur la structure moléculaire. Et donc, il me semble qu'il y a une confusion entre le possible métaphysique et le possible physique. Et quant à Putnam, pour sa part, il dit « Il semble que c'est un cas où la réponse est clairement arbitraire. » ce qui ne nous aide pas beaucoup. Donc, selon mon raisonnement, pour autant que XY n'est pas actualisé dans notre monde et reste une possibilité conceptuelle, notre concept d'eau et notre usage linguistique n'ont aucune raison de changer, car ils dépendent de formes de vie réalisées socialement dans le monde actuel. De même qu'on ne va pas appeler souris un éléphant sous prétexte que ça pourrait être un éléphant dans un monde possible. Ça pourrait être une souris dans un monde possible. Si, en revanche, XYZ s'actualisait dans notre monde, alors nous changerions d'usage. Nous baptiserions XYZ de l'eau. Or, il est métaphysiquement possible que XYZ s'actualise, donc il est métaphysiquement possible que quelque chose d'autre que H2O soit de l'eau, CQFD. Voilà. L'eau n'est pas nécessairement H2O. Alors, ce raisonnement, un peu rapide peut-être, s'accorde à une intuition du sens commun, c'est-à-dire qu'il existe des possibilités métaphysiques que l'eau ne soit pas H2O, ou il existe des possibilités, disons, je supprime métaphysique, que l'eau ne soit pas H2O, mais qu'elle n'influe pas sur notre dénomination des choses ni sur nos schèmes conceptuels, à moins d'être actualisées. Auquel cas, ce ne sont plus de simples possibilités, mais des réalités physiques. Donc, ce qui voudrait dire que l'eau n'est par essence H2O que, si et seulement si, il existe de l'eau... Pardon, l'eau n'est pas par essence H2O, si et seulement si, il existe de l'eau qui n'est pas H2O. C'est-à-dire, finalement, c'est une question non pas de possibilité, mais d'existence. Car l'extension... finalement, de l'eau ne dépend pas des possibilités, mais vise une approximation empirique de la réalité, puisque c'est le but de nos concepts. Or, on sait depuis Quine, au moins, que cette approximation de la réalité n'est qu'idéale et qu'elle dépend toujours d'un cadre de référence, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir quand la phrase « ceci est de l'eau » est vrai, de connaître les vérifacteurs de ceci et de l'eau, pour connaître la référence du terme « eau » en vertu de l'indétermination de la référence. Or, en outre, Putnam a démontré que la sous-détermination de la référence doit être étendue au monde possible. C'est-à-dire que, il fait ça dans « Raison, vérité, histoire », c'est-à-dire que même si on savait dans tous les mondes possibles si la proposition « ceci est de l'eau » est vraie ou non, on ne connaîtrait pas la référence du terme « eau ». De là, on peut tirer, me semble-t-il, l'idée que la métaphysique des possibles est confrontée au même problème que les théories scientifiques. On pourrait avoir une illusion de l'exhaustivité du sens avec l'extension au monde possible, mais en réalité, aucune approche qui fixe seulement la valeur de vérité des phrases ne peut fixer la référence même possible. Alors, c'est là où commence vraiment la partie la plus éthérée de ma proposition et où s'arrête peut-être la conférence. Face à cette indétermination du sens, eh bien, on peut être tenté de voir dans les différents types d'énoncés produits simplement des interprétations. Et à ce titre, voilà ce qui distingue les discours scientifiques, littéraires, psychanalytiques, etc., et métaphysiques, c'est le type d'interprétation qu'ils produisent, c'est-à-dire le type de signe qu'ils prennent en compte, le type d'interprétant. Et je propose comme tâche à la philosophie celle de classer ces discours, de classer les interprétations, c'est-à-dire non pas de manière un peu rortienne de dire que il n'y a que des interprétations qu'elles se valent toutes, tout est discours, mais de dire que justement la valeur de ces discours doit être évaluée à l'aune de ce que Peirce appelle des interprétants, c'est-à-dire de signes qui sont eux-mêmes des critères de validité du domaine dont il est question, c'est-à-dire que les critères de validité, d'interprétation correcte du discours scientifique sera scientifique, et le discours de validité, le critère de validité de l'interprétation métaphysique sera métaphysique, c'est-à-dire portant sur un univers au sens logique d'objets qui est un univers métaphysique, qui n'est donc pas l'univers de la science. Ce qui veut dire que la métaphysique ne porte pas sur des objets empiriques, ne peut pas porter sur des objets empiriques, des objets de science, non pas à cause d'une différence dans les modalités, possibilités scientifiques, possibilités logiques, possibilités conceptuelles, possibilités métaphysiques, mais plutôt dans une différence de signes et d'usage des signes qu'il renvoie. Je n'en dirai pas plus.